Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy
dans RTL Midi. À la une du standard de RTL, la réforme des retraites au 32-10.
Et pour la défendre, cette réforme des retraites engagée par le gouvernement après une concertation dont vous pouvez nous dire d'ailleurs ce que vous en pensez, bien sûr. Isabelle Debré, sénatrice UMP des Hauts-de-Seine. Bonjour Madame Debré.
Bonjour.
Vous êtes engagée, on le sait, comme d'autres d'ailleurs, d'autres parlementaires UMP dans un tour de France d'explication de texte, d'explication de cette réforme. Vous rencontrez beaucoup de militants UMP, on imagine. Qu'est-ce qui vous frappe dans la réaction telle que vous les percevez de cette réforme qui aujourd'hui met des millions, peut-être au pluriel, des millions de Français dans la rue?
Je pense que les Français sont totalement conscients du fait qu'il faut faire cette réforme. C'est indispensable lorsqu'on regarde effectivement les déficits qui menacent le système français de retraite. Le rapport du COR est formel. Nous sommes à 32,3 milliards d'euros de déficit en 2010 et nous atteindrions les 100 milliards d'euros en 2050 si nous ne faisions rien. Je crois que les Français sont parfaitement conscients de la nécessité absolue de faire cette réforme des retraites.
C'est vrai que les sondages le montrent. Ils sont conscients de la nécessité de la faire. Ils ne sont pas d'accord en majorité avec la façon dont vous le faites.
Et vous savez, c'est toujours très difficile de réformer dans notre pays. Je crois que c'est à la gloire du gouvernement, vraiment. Et c'est, je tiens à souligner les réformes des retraites qui à chaque fois ont été faites par la droite. À chaque fois, chaque fois. C'est quand même incroyable de voir que la gauche ne se met pas face à ses responsabilités. Je crois que c'est une réforme. Il devrait y avoir un consensus.
Isabelle Debré, je vous propose qu'on écoute tout de suite les auditeurs qui vont échanger avec vous sur ce thème évidemment crucial.
On va commencer par Bernard à Drancy. Bonjour Bernard.
Bonjour, c'est Bernard. Bonjour Elisabeth, bonjour Jérôme.
Bernard, bienvenue.
Vous êtes technicien chauffagiste, vous avez 56 ans.
Et je suis né en 53, donc je tombe pile poil sur la retraite. Là, je dois faire un an de plus.
Ouais.
Donc voilà. Donc moi, j'ai une ceinture lombaire. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Médicaux. Mm-hmm. Donc moi, je trouve un peu spécial.
Donc vous allez devoir travailler plus longtemps puisque vous êtes donc dans cette catégorie d'âge.
Dans la tranche, justement. À l'affranchissement de un an de plus, puisque je coupe 53, donc c'est à partir de 53, je pense que.
Alors, donc, le cas de Bernard, Isabelle Debré, est assez intéressant. Ça fait partie de la pénibilité, qui va être mesurée de manière individuelle et médicale dans cette réforme, Madame Debré.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le président de la République l'a bien dit. Il souhaite que nous, parlementaires, nous travaillons sur ces trois thèmes. Les carrières longues, bien sûr, la pénibilité et les polypensionnés. Donc je crois que ça, c'est très important. La réforme va évoluer encore. Les parlementaires, nous allons faire notre travail. Nous allons travailler de façon approfondie sur, entre autres choses, ces trois thèmes. Et je crois que Bernard rentre effectivement totalement dans cette catégorie.
Alors vous pensez à Bernard. Il vient de nous décrire son cas. Il travaille dans le chauffage, dans les techniciens chauffagistes. Il porte des charges lourdes, il a des problèmes de dos, de lombaires, il va devoir travailler plus longtemps. Qu'est-ce que vous lui répondez concrètement?
Mais je crois que c'est évident que la pénibilité doit être prise en compte. Il est difficile de prendre en compte la pénibilité dans son ensemble. Alors bien sûr, si nous étions dans un système à points, comme en Suède par exemple, sur ce qu'on appelle le compte notionnel, il est beaucoup plus aisé de tenir compte de la pénibilité, de l'espérance de vie. Aujourd'hui, sur la retraite par répartition, c'est effectivement plus compliqué, plus complexe, et c'est à nous de travailler sur ce thème pour essayer de trouver... Vous savez, je crois que la volonté du gouvernement et des parlementaires, c'est d'arriver à une réforme juste, équitable, mais en même temps faire preuve de pragmatisme et de bon sens. On le sait aujourd'hui, nous sommes 16 millions de retraités en 2010, nous serons 22 millions de retraités en 2050. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, nous avons 1,8 cotisants pour un retraité, nous avions ça en 2006, nous en aurons 1,2 en 2050. Et juste un tout petit rappel historique quand même qui montre bien l'évolution aussi de la démographie, c'est que nous avions 4 actifs pour un retraité, en 1960. Oui. Nous gagnons une espérance de vie, ce qui est d'ailleurs tout à fait remarquable et bien appréciable. Donc travailler un ou deux ans...
Madame Debray, si je puis me permettre, les statistiques, on les connaît, mais vous prenez le cas de Bernard. Bernard, vous êtes toujours avec nous. Bernard, est-ce que... Allez-y.
Oui. Simplement après 20 ans de carrière, par exemple. Après 20 ans de carrière, on est bien assis. Et donc, on pourrait souhaiter qu'à partir de 20 ans de carrière, par exemple, on octroie sa retraite à 60 ans, 65 ans, 70 ans, en cotisant au prorata de ce qu'on souhaiterait faire, en fait. Donc, si on peut, par exemple, à 20 ans de carrière, on est quand même assis, donc on pourrait très bien dire, bon, moi, je prends ma retraite à 65 ans, donc je vais cotiser... Pendant mes 20 ans de carrière, je vais cotiser autant pour avoir mes 65 ans. Et après 20 ans de carrière, on pourrait dire je cotise plus.
Oui. Oui. Je comprends très bien ce que vous dites, Bernard. Et là, c'est une retraite à la carte que vous demandez.
Voilà.
Ce serait bien. Ça.
Ah oui, non, mais il faudra faire évoluer effectivement notre système de retraite. Moi, j'en suis absolument intimement persuadée. Mais aujourd'hui, nous avions le choix à faire une retraite paramétrique ou avec sur une réforme paramétrique ou une réforme systémique. Vous demandez carrément une réforme systémique.
Ce serait magnifique, ça.
Ce serait magnifique. Peut-être que nous arriverons là. Aujourd'hui, si vous voulez, je crois véritablement le but du gouvernement, c'est d'arriver à sauver notre retraite par répartition. Une fois que nous aurons fait ce travail qui, je peux vous dire, est quand même pas très facile, une fois que nous aurons fait ça, peut-être devrons-nous, en tout cas c'est mon souhait, mais là je m'exprime en tant qu'individu propre, c'est mon souhait de peut-être aller vers une réforme systémique.
Merci beaucoup Bernard, on continue avec vous Isabelle Debray, sénatrice UMP des Hauts-de-Seine, on parle des retraites et il y a beaucoup de manifestations, une journée de mobilisation aujourd'hui à ce sujet dans toute la France.
RTL, 13h25.
Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy,
dans RTL Midi.
Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy,
dans RTL Midi. À l'occasion de la sortie du DVD du film Shutter Island, RTL offre à tous les auditeurs qui interviendront dans Les Auditeurs ont la parole aujourd'hui, le DVD de ce film avec Leonardo DiCaprio. Les Auditeurs ont la parole, la suite, vous parlez de la réforme des retraites au 32-10.
On peut aussi aborder d'autres sujets avant 14h30, mais le retour des Bleus tout à l'heure, à 11h50, leur avion jaune a atterri au Bourget. Il y avait quelques supporters 200 environ qui les attendaient, mais alors ils n'ont eu droit à aucun signe, aucun autographe, rien. Les joueurs se sont dispersés, qui dans des voitures, qui dans des cars, en jet privé pour Ribéry qui va se faire opérer d'urgence à Munich demain. Opération de laine a-t-on appris ? Vous nous appelez, vous nous dites Thierry Henry est à l'Élysée en ce moment, semble-t-il. Hein, il est entré aussi par une toute petite porte, on ne l'a pas vu. Mmh. En tête à tête dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Alors qu'est-ce qu'ils se disent ? J'aimerais bien qu'il y ait une petite souris. Oui. Est-ce qu'il déballe tout, Thierry Henry? C'est un peu le but de l'opération, semble-t-il. On peut aussi parler des 4 ans fermes requis contre Jérôme Kerviel, tout à l'heure en correctionnel. Son avocat, vous l'avez entendu, ne comprend pas, la sévérité du procureur. Et puis Jeannie Longo?
Ah bah oui, c'est formidable, Jeannie Longo. 51 ans, 57e titre national. Elle a décroché ça ce matin en Vendée dans les championnats de France, le contre-la-montre. 57e titre pour Jeannie Longo qui était avec nous tout à l'heure et qui descend son vélo complètement décontracté. Et voilà, ça a l'air tout naturel, c'est extraordinaire. On va revenir aux retraites, parce que Jaïl Longo n'est pas prêt de prendre sa retraite, apparemment. Isabelle Debray, sénatrice UMP des Hauts-de-Seine, on en parle avec vous des retraites, avec les auditeurs de RTL. On est avec Vincent, qui est dans la Marne, à Épernay. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour Vincent.
Nous vous écoutons.
Alors, j'ai eu donc votre interlocuteur au téléphone et je lui ai dit que pour qu'une réforme soit valable et validée, il faut qu'elle soit juste. Mmh. Et donc, j'avais déjà une première question à poser à Madame la députée. En ce qui concerne les enfants, les bonifications, vous savez que dans le privé, les bonifications sont de 2 ans par enfant, alors que dans le public, les bonifications sont de 1 an, et pour les enfants nés après 2004, sont seulement de 6 mois.
Ça va changer tout ça, Madame Debray, hein ?
Tout à fait, tout va changer. Monsieur, vous avez parfaitement raison. C'est tout à fait dans le projet de loi actuel. Il faut une équité et une justice, et il n'est pas normal que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Et ça va complètement changer, ça.
De quelle manière ?
C'est-à-dire que lorsque vous aurez 3 enfants, vous aurez 2... Alors,
dans le public, hein ?
Oui, dans le public. Cela étant dit, ça peut encore évoluer, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un projet de loi, comme vous le savez, mais les sénateurs et les députés vont faire aussi évoluer ce projet de loi.
Parce que Madame Debré, je résume la loi telle qu'elle est actuellement dans le public, une femme qui a eu 3 enfants dans le public peut s'arrêter au bout de 15 ans d'activité, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Mais ça va évoluer?
Oui, tout ça va évoluer, de même que le taux de cotisation, vous le savez, va évoluer, de façon à ce qu'on aille vers une plus grande justice, une plus grande équité, puisqu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, nous allons essayer de faire évoluer tout ça pour aller, comme le dit très justement Vincent, dans le bon sens, de façon à pouvoir faire preuve de justice et d'équité. Je crois que c'est vraiment le but du gouvernement, l'objectif du gouvernement, c'est ça, tout en faisant preuve, effectivement, de pragmatisme et de bon sens, et de traiter différemment certaines catégories. Justement, on essaiera de tenir compte de la pénibilité des carrières longues et des polypensionnés.
Vincent, ça va dans le bon sens, cette évolution décrite par Mme Debré?
Je suis désolé, je vais un peu insister. Vous avez parlé des 3 enfants. Moi, je parle de la bonification par enfant. 2 ans dans le privé, 6 mois dans le public à partir du 1er janvier 2004. Au niveau des députés et des sénateurs, quelle serait la tendance? De trancher au milieu, de se rapprocher des 2 ans, de se rapprocher des 6 mois ou de venir à 1 an?
Non, honnêtement, je ne veux pas faire la langue de bois. La décision sera prise en septembre. Moi, je pense que... Je crois qu'il faudrait, vous savez qu'aujourd'hui la majoration de durée d'assurance de 2 ans par enfant, c'est un effort de 5 milliards d'euros par an. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va regarder ce que l'on peut faire aussi d'un côté financier. Je peux pas vous donner, je peux pas trancher moi personnellement aujourd'hui si vous voulez. Il faut laisser le débat se faire.
Alors vous voyez, c'est toujours ça qui me dérange dans les réformes. C'est que normalement, pour moi, quand on fait une réforme, on doit tout préparer en amont et faire de la pédagogie, moi qui suis enseignant, c'est-à-dire arriver, et là, on est toujours dans le flou. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une réforme, et puis il y a toujours des sous-entendus, des implicites, etc. Et ça va arriver comme ça, au mois de juillet, au mois d'août, sans véritablement savoir. Je pense qu'une réforme, quand elle se prépare, je sais que vous faites un travail conséquent, les députés, les sénateurs, peut-être que c'est le gouvernement qui vous met des bâtons dans les roues, ça, je ne sais pas, mais... je trouve qu'à chaque fois, ça manque de pédagogie et de clarté.
Il va y avoir un débat au Parlement, de toute façon.
On est méfiant sur toutes les réformes, parce qu'on a toujours le sentiment qu'on va se faire flouer à chaque fois.
Je crois
que comme la Suède, je crois qu'ils ont mis plus de 10 ans pour faire la réforme des retraites. Hein. Alors que nous, on va faire ça en 3 mois.
Non, mais attendez, là, c'est très différent. Vous parlez de la Suède, la Suède est passée au compte notionnel. C'est-à-dire, elle a fait vraiment une réforme systémique, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Bernard. C'est complètement différent. La Suède a mis effectivement, vous avez raison, 10 ans pour mettre en place son nouveau système de retraite, mais il est passé à un système d'un compte notionnel. Alors pour les auditeurs, c'est quoi? C'est une retraite un petit peu à la carte, avec on cotise en fait avec des points. On a un compte un peu virtuel et au moment où l'on prend sa retraite, on convertit ses points et on tient compte là de la pénibilité et de l'espérance de vie. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, vous avez parfaitement raison, elle a mis 10 ans pour faire cette réforme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement ne veut pas aller vers cette réforme systémique, parce qu'il nous faudrait 10 ans. Là, ce qu'on essaie de faire immédiatement, c'est de sauver notre système par répartition.
Oui, mais alors quand je vous écoute, en Suède, ça a l'air d'être une mesure, je dirais, juste parce que vous comptez la pénibilité, vous comptez tout ça.
Oui.
Alors que là, par exemple, je vais vous poser une deuxième question. L'âge légal de retraite à l'heure actuelle, quand on n'a pas toutes ces années de cotisation, est bien de 65 ans aujourd'hui.
Oui.
Donc, on peut partir sans décote à 65 ans.
Oui.
D'accord. Donc, dans la réforme, ça ne sera plus 65, ça sera 67.
Oui.
Donc, si on part à 66 ans et qu'on n'a pas tous ces
Ça dépendra aussi de... Oui, c'est bon.
On aura une décote.
Oui, absolument.
Voilà. Alors, moi, je vous donne quelques
exemples. Vous pouvez partir à la retraite.
Vous savez que les jeunes, de plus en plus, ils ont du mal à rentrer dans la vie active. On leur demande d'être diplômés. De plus en plus. Les enseignants, par exemple, on leur demande avant, ils avaient une licence. Aujourd'hui, il faut avoir un master pour être enseignant. Donc, 18 plus 5, ça fait 23, etc., etc. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une classe de maternelle. Moi, je suis au lycée, hein, donc je prends l'exemple de maternelle. Aujourd'hui, en maternelle, il n'est pas rare de voir des classes de 28-29 avec une enseignante de 65 ans. Vous pensez pas qu'elle va être un peu fatiguée?
Écoutez, je peux pas vous dire si elle sera fatiguée ou pas. Le fait est qu'aujourd'hui, on peut prendre sa retraite quand on veut.
Oui, mais il y a la pénalité. Moi, ce que je trouve qui serait équitable, c'est ça serait d'enlever la pénalité. C'est-à-dire que laisser peut-être à 65, mais la pénalité, ça va être quelque chose qui va réduire considérablement les pensions de retraite.
Mmh. Hein. Madame Debré, si la mobilisation ce soir, quand on fera les comptes, est massive, est-ce qu'il forcément le gouvernement va devoir faire quelques ajustements? Est-ce que, par exemple, ce que dit à l'instant Vincent peut être pris en compte?
De toutes les manières, que la mobilisation soit forte ou pas forte, nous avons l'intention de travailler, d'écouter, de dialoguer, et entre autres sur les trois thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les carrières longues, la pénibilité, les polypensionnés.
Ça peut encore un petit peu bouger.
Le débat est totalement ouvert. Éric Woerth est prêt à aller plus loin. Il l'a bien dit, entre autres choses, sur la pénibilité. Le gouvernement est à l'écoute. Les parlementaires, nous sommes à l'écoute. Je suis moi-même membre de la commission des affaires sociales. Le rapporteur, qui est Dominique Leclerc, est un très grand spécialiste des retraites. Il est à l'écoute. Il auditionne tous les jours. Les sénateurs, comme les députés, nous allons travailler. Nous avons travaillé cet été pour travailler encore sur ce texte. Il va évoluer, ce texte. Et nous sommes là pour écouter, pour débattre, pour expliquer. Alors vous dites qu'il y a, certains disent de vos auditeurs qu'il y a un problème de communication. Ils ont raison, c'est complexe et effectivement il nous faut expliquer. Et c'est pour ça que nous sommes plusieurs orateurs nationaux qui avons été nommés pour pouvoir aller justement dans toute la France pour expliquer cette réforme, pour expliquer et pour écouter.
Il y aura de toute façon des efforts demandés, ça c'est sûr, à tous les Français dans le cadre de cette réforme.
Merci Vincent à Épernay. On continue dans un instant au 32-10.
RTL, il est 13h37.
Ils font l'actualité, ils sont face aux auditeurs
dans RTL Midi.
Face aux auditeurs avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy
dans RTL Midi. La réforme des retraites, vous en parlez au 32-10.
On va parler de ce sujet encore quelques minutes, toujours en compagnie d'Isabelle Debré qui est sénatrice UMP des Hauts-de-Seine. Il y a d'autres sujets dans l'actualité. Il y a le retour en France des footballeurs maudits de l'équipe de France. Vous les avez peut-être vus arriver de loin au Bourget. Et ça n'a pas été facile de les approcher, ils n'ont pas parlé. Et actuellement, Thierry Henry est dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'il est sorti, on ne sait pas très très bien. Peut-être sorti par une petite porte. Il y avait beaucoup de petites portes dans l'actualité aujourd'hui pour ces footballeurs qui ne sont pas arrivés par la grande porte. Ça, c'est certain. Vos opinions au 32-10. On peut parler également de Jérôme Kerviel. On s'achemine vers la fin du procès et le procureur a réclamé 5 ans de prison contre l'ancien trader de la Société Générale. 5 ans, donc 4 années ferme. C'est une réquisition assez sévère contre Jérôme Kerviel. Là aussi, vous pouvez donner votre avis au 32-10.
Et on va sur le blog.
Oui.
RTL Midi,
le journal du blog, Julien Fautras.
Le blogueur d'RTL Midi qui réagissent à l'appel à manifester et à faire la grève aujourd'hui contre la réforme des retraites, Julien.
Il est sur le blog des avis encore très très partagés. Dans un premier temps, Patrick, bravo, allez tout le monde dans la rue, unissons-nous. Ne soyons pas égoïstes comme l'ont été les Bleus, soyons solidaires face à cette injustice sociale que nous prépare le gouvernement. Mail de Harris aussi, il y a des solutions pour payer les retraites sans obliger les gens, surtout les plus faibles, à travailler plus longtemps. C'est pas humain tout ça, on peut cotiser davantage ou mieux redistribuer les impôts. À l'inverse, on a Tatou, les gens qui veulent vraiment travailler ne sont pas dans la rue. 62 ans, franchement, ça ne va pas changer grand chose pour les travailleurs. Technocar aussi, je suis un auditeur de 73 ans qui travaille, on peut travailler longtemps avec peut-être un correctif pour les métiers pénibles, une manifestation qui fait encore perdre de l'argent aux entreprises. On n'avait pas besoin de ça en ce moment. Et puis pour finir, mail de Marie, pour qui cette mobilisation n'est qu'un nouvel exemple de nos conservatismes. Il faut pour Marie une contre-manif un dimanche avec encore plus de monde pour que le gouvernement gagne la bataille de la rue.
Merci beaucoup Julien Fautras.
Elisabeth Martichoux, Jérôme Godefroy.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Avant de retrouver les auditeurs, une petite question, Isabelle Debré, on rappelle, sénatrice UMP des Hauts-de-Seine, chargée par l'UMP d'ailleurs d'expliquer cette réforme dans toute la France. Hier, le bureau du Sénat a adopté une disposition pour interdire le cumul retraite-salaire, c'est bien ça?
Oui.
Emploi-salaire?
Oui.
Vous nous confirmez que le bureau, donc ça s'est fait.
Oui,
quand on est sénateur, on ne pourra plus cumuler son salaire de sénateur et sa retraite.
Je crois que le président Larcher, depuis son élection, a voulu remettre tout à plat et faire des économies. Nous avons fait beaucoup d'économies. Nous avons certaines choses qui vont changer. Nous sommes en train de réformer complètement de façon à ce que nous soyons, nous aussi, exemplaires. Nous essayons d'être le plus exemplaires possible, bien sûr.
Madame Debray, Jacques est avec nous de Vendée. Bonjour Jacques.
Bonjour à vous.
Nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée ?
Bonjour Madame la sénatrice.
Bonjour monsieur. Bonjour Jacques.
Bonjour Isabelle.
Nous vous écoutons. Là, qu'est-ce que vous pensez de
cette journée ? Ça fait rire Isabelle Debray, tant mieux.
Simplement, là, Madame la sénatrice vient de nous annoncer que, par exemple, au Sénat, on ne pourra plus être sénateur et cumuler ses retraites. Alors, ça va être dur pour Michel Rocard, qui, lui, a déjà deux retraites. Sa retraite d'inspecteur des finances et ensuite de maire de Conflans-Sainte-Honorine, c'est-à-dire 4700 euros.
Ah, vous avez tous les chiffres, vous ?
Oui, oui, j'ai tous les chiffres. Et en plus, il perçoit...
Sur tout le monde ? Non.
C'est son indemnité de sénateur, c'est-à-dire 7800 euros. Puis ensuite, comme il a une mission sur le partage de l'Arctique et de l'Antarctique, ça fait...
Pour laquelle il n'est pas payé, je crois.
Bon, je vous rassure, je ne suis pas à la retraite, Jacques. Donc moi, je n'ai que mon traitement de sénateur.
Bravo, madame.
On peut encore cumuler les indemnités d'élus, c'est
Juppé,
vrai.
Lui, monsieur Juppé, il a deux retraites aussi. Il était inspecteur des finances et ancien député. Ça fait
je crois que vous pouvez faire confiance au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et à Gérard Larcher, notre président du Sénat, pour que nous montrions l'exemple.
Alors, c'est très bien.
Jacques, cette journée de mobilisation aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, d'abord, c'est une journée importante parce que ce que les gens demandent d'abord, c'est de l'égalité. C'est-à-dire, il est inadmissible qu'à notre époque, le travail soit plus taxé que les revenus du patrimoine. Ensuite, il demande de la solidarité. Et je ne pouvais pas parler à Madame la sénatrice de l'insupportable privilège du bouclier fiscal, mais je vais lui parler des niches fiscales. Les niches fiscales sont au nombre de 486 dispositifs dérogatoires.
On va les raboter.
Il y en a pour 80 milliards quand même, hein, madame. Exact.
Oui.
Mais moi, j'aimerais bien que vous me parliez de la niche Copé qui favorise les grandes entreprises et qui, à elle seule, fait 20 milliards de plus. Et elle est toute nouvelle, cette niche fiscale. Alors, on les a trouvés, là, nos 100 milliards, hein, madame ?
Je sais qu'il y a des niches fiscales où il va falloir remettre à plat. Il y a certaines niches fiscales qu'il faut garder, moi je le pense, certainement. Par exemple, les aides à domicile, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin aussi d'aide à domicile. Il y a certaines niches fiscales, encore une fois, je parle à titre personnel, qu'il faut garder. D'autres, il faudra les remettre à plat. Ce que je vais faire une toute petite digression, si vous êtes d'accord. Tout à l'heure, j'ai pas pu répondre à l'auditeur précédent qui nous disait qu'il y avait d'autres systèmes de retraite que l'on pourrait mettre en place. Bon, mais je voudrais juste vous donner un exemple. Je crois que les Français ont compris qu'il fallait eux aussi qu'ils s'intéressent à leur retraite. Et j'en ai pour preuve le PERCO, qui est le plan d'épargne retraite collective qui est mis en place dans certaines sociétés, qui est en augmentation au 30 septembre 2009, qui était en augmentation de 49% en un an, avec un encours qui est à peu près de mémoire de 2,7 milliards d'euros. Ça prouve bien que les Français ont totalement conscience qu'il faut qu'eux aussi se prennent en charge. Alors, c'est vrai que ça n'est pas directement dans la réforme, puisque nous allons travailler sur la réforme, comme je vous l'ai dit, sur la réforme de répartition, sur notre système de répartition. Mais je pense qu'il va falloir aussi aller plus loin et travailler sur l'épargne salariale. Je crois que c'est très important en tant que gaulliste. Vous pensez bien que j'y suis très attachée.
Jacques ?
Oui, non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord sur l'épargne salariale du tout.
Pourquoi ?
Je dis que la retraite, ça doit être une œuvre de solidarité nationale.
Mais n'empêche pas
l'autre. Le grand problème humain, madame, est le suivant. Est-ce qu'un homme qui a travaillé toute sa vie a le droit, un jour, de se trouver avec un salaire décent, c'est-à-dire minimum le SMIC ? Je dis bien minimum le SMIC, hein. On peut pas faire autrement. Et à ce moment-là, on va l'appeler retraité alors qu'il sera un homme plein d'activités dans des associations. Si vous allez à Caen, vous allez par exemple à une conférence ou à un débat de Michel Onfray, vous avez 800 retraités dans la salle. C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'intéressent à la culture, qui s'intéressent à l'éducation, qui s'intéressent ne serait-ce qu'à la culture de leur jardin. Et à ce moment-là, ils mangent des produits diététiques propres et frais. On pourrait d'ailleurs, à ce niveau, madame, sur les produits biologiques, mettre une TVA à 5,5, ce qui permettrait aux gens les plus pauvres de manger des produits sains. Mais la solidarité, c'est un système, vous qui êtes gaulliste, c'est un système qui a été voulu par De Gaulle en 1945. La malhonnêteté de ce système, c'est d'avoir arrêté une retraite à 65 ans, qui correspondait au taux de mortalité moyen d'un homme à l'époque.
On va pas pouvoir reprendre toute l'histoire des réformes,
je ne veux pas la reprendre.
Parce qu'on va faire la place à d'autres auditeurs. Vous avez une dernière question très précise ou pas ?
Alors, dernière question simplement, il faut que ça soit une œuvre de solidarité si madame veut bien l'accepter.
Tout à fait.
Hein,
c'est la première.
Et que, à partir d'un certain moment, on aille même plus loin, puisqu'on parle déjà des niches fiscales, etc., de la niche Copé, on peut aussi voir tout ce qui est les impôts sur société, car actuellement, les PME trinquent à 33%
question,
et les grandes.
La question, Jacques, on sent que vous pouvez tenir des heures sur ce sujet. Vous êtes très savant. La question, Jacques.
Est-ce qu'il ne serait pas plus valable de mettre tout le système fiscal français à plat, de le revoir.
Vaste programme.
Mais la Suède, votre correspondant d'avant, a dit une chose très simple. Il
ah
a
non,
dit
on ne va pas
Suède
refaire l'histoire des auditeurs non plus, Jacques.
Bon, Jacques,
on peut tout refaire, alors, allez. Isabelle Debray est-ce qu'on peut tout reprendre
après,
à zéro?
On parlera des retraites.
Alors, est-ce qu'on peut tout reprendre à zéro, Isabelle Debray, demande Jacques.
Tout le système fiscal, allons-y.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit on fait une réforme systémique, soit une réforme paramétrique. Nous sommes aujourd'hui dans une réforme paramétrique parce que nous essayons de sauver notre retraite par répartition. Et Jacques est un gaulliste, donc il sait que ce système par répartition, c'est le général de Gaulle, bien évidemment, qui a mis ça en place en 1945. Mais je lui rétorquerai aussi que la participation et l'épargne salariale, c'est aussi le général de Gaulle qui l'avait mis. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire les deux en même temps.
Voilà, on remercie Jacques qui a beaucoup de choses à dire sur ce dossier. On reste encore quelques minutes avec Madame Debray, sénatrice UMP des Hauts-de-Seine.
Ils font l'actualité. Ils sont face aux auditeurs.
Dans RTL Midi.
Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy.
Dans RTL Midi. L'actualité selon vous, au 32-10.
Toujours avec Isabelle Debray, on parle des retraites. Grande journée de mobilisation, Madame Debray qui est sénatrice UMP des Hauts-de-Seine. Alors, il y a deux Olivier qui nous attendent au 32-10. On va commencer par celui du Nord, de Douai. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Jérôme, bonjour Elisabeth.
Nous vous écoutons avec Madame Debray.
Eh bien, moi je suis un peu estomaqué par les Français, si vous voulez.
En général.
Ouais, bah oui, parce qu'on fait une journée nationale. Si vous voulez, moi cette journée elle est un petit peu à l'image un peu des Français que je côtoie, des clients que je côtoie. C'est-à-dire que tout le monde pense à sa paroisse. Et en fait, les autres on s'en fiche un peu quoi. Certains partent faire grève aujourd'hui alors que ça changera à mon avis rien du tout. Certains syndicats font grève, d'autres ne font pas grève. C'est la guerre entre les syndicats qui théoriquement sont censés nous défendre. Donc les Français, je pense que sont un peu perdus là-dedans. Et puis moi, je pense que de toute façon, il faudra passer par plus de travail, plus longtemps. Et je pense qu'il y a un travail à faire vraiment à la base, c'est-à-dire à l'école, en disant à nos enfants, les enfants, il faut absolument travailler très jeune à l'école, comme ça vous choisirez votre métier et vous choisirez votre pénibilité.
D'accord.
Et aujourd'hui, il n'y a que ça, à mon avis, qui peut nous sauver, c'est-à-dire il faut que tout le monde cotise plus, je pense.
Alors des cours sur la retraite à l'école ?
Bah pourquoi pas. Pourquoi pas ? Parce que les gens, moi je suis papa de plusieurs garçons, et mes garçons, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent gagner plein de sous.
Ouais.
Donc à chaque fois ils me demandent, c'est tel métier, ils gagnent des sous, oui, mais attention, je leur dis, tel métier est difficile. Donc on peut pas tout avoir, on peut pas avoir des métiers très valorisants et à la fois décontractés, être à 5 heures chez soi, sans contraintes, sans stress.
Olivier, mais globalement, cette réforme préparée et voulue par le gouvernement, globalement, vous l'approuvez ?
Elle est indispensable. Mm-hmm. Alors, oui. Moi, je côtoie des gens qui se préoccupent de plus en plus de leur retraite, qui pensent de plus en plus tôt. Et ben les gens, vous savez, ils ne veulent pas cotiser pour les autres, ils veulent cotiser pour eux.
Mais c'est pour ça,
Isabelle Debray,
oui, si je peux répondre à Olivier, c'est pour ça que quand je dis dit qu'on pourrait mettre aussi en place l'épargne salariale.
Ah, mais...
Le PERCO, par exemple, vous avez raison de dire que les Français ont le droit aussi de penser eux-mêmes et par eux-mêmes à leur propre...
Ah, mais de toute façon, les gens, pardonnez-moi de vous interrompre, mais les clients aujourd'hui, eux, quand ils pensent à leur retraite... Ils se la font eux-mêmes, c'est-à-dire vous, toutes les rénovations d'appartements avec les lois Célie, etc. Bien sûr, ça fait un complément de revenu, mais les gens se disent ma retraite, je n'y compte pas dessus, je vais me la faire moi-même. Alors bien sûr, les gens riches sont privilégiés dans l'histoire.
Bah, c'est totalement injuste comme
le Sénat au sein du COPIESAS, qui est le Conseil d'orientation pour l'intéressement, l'épargne et l'actionnariat salarié. Pourquoi je défends la participation ? La participation, c'est le moyen le plus sûr et le plus facile, entre guillemets, pour les salariés de devenir propriétaires de leur appartement, comme vous le dites vous-même. Et quoi de mieux pour préparer sa retraite que d'être propriétaire de son appartement, de son logement ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un ardent défenseur, je ne sais pas comment vous dites, de la participation, de l'intéressement, bien sûr, mais de la participation, de l'épargne salariale, du PERCO, du PERT, parce que les Français ont tout à fait dans l'esprit de préparer aussi eux-mêmes leur retraite. Alors, ça n'est pas effectivement directement la réforme que nous faisons, parce que nous allons sauver ce système par répartition, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut que les Français, de leur côté aussi, puissent avoir accès à ces dispositifs. Et je rappelle quand même qu'à peu près 93 000 entreprises ont mis en place un dispositif d'épargne salariale, qu'il y a 2 millions à peu près de salariés qui sont couverts. Il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'on simplifie peut-être le dispositif, la mise en place. Mais aujourd'hui, il y a, je crois, dans les 500 000 salariés qui ont effectué un versement, donc plus de 20%, une progression de 20%. Donc ça prouve bien que les Français sont conscients du fait qu'il faut qu'eux aussi pensent à leur propre retraite, ce que disait Olivier.
On va remercier cet Olivier du Nord et on va conclure dans la minute qui reste avant 14h avec un autre Olivier qui est dans le Maine-et-Loire. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Vous êtes favorable à cette grève, à ce mouvement, hein ?
Oui, je suis tout à fait favorable. Je suis un petit peu en contradiction avec l'autre Olivier.
Oui.
Du simple fait que je trouve, sans faire de populisme et de discours de café du commerce, mais qu'on soit tous à la même enseigne.
Vous êtes patron d'une petite entreprise. Hein ?
Voilà, tout à fait.
7 salariés.
Hein ? Voilà. Et qu'on soit tous à la même enseigne, c'est-à-dire les régimes spéciaux, les fonctionnaires, nos politiques. Aujourd'hui, où M. Sarkozy reçoit Thierry Henry, où il veut qu'on donne l'exemple, qu'ils commencent par eux-mêmes, ils auront déjà plus de crédit vis-à-vis des citoyens, et qu'on soit tous au même système de calcul, qu'il n'y ait pas de privilèges, qu'on élargit l'assiette des fonctionnaires, puisqu'ils cotisent sur moins, ils ne cotisent pas sur leurs primes. On intègre tout ça, ils payent 10%, je crois, alors qu'ils sont à 7% au niveau de leur cotisation.
Ça va changer, ça, Madame Debray. Hein.
Oui, ils sont à 7,85 et ils passeront à 10,55 sur 10 ans, c'est-à-dire que le privé...
Oui, mais pourquoi 10 ans ? Pourquoi attendre ? Pourquoi faire toujours attendre les fonctionnaires quand nous, le privé, on ne nous fait pas de cadeaux ? Alors, je sais que c'est divisé pour mieux régner, c'est-à-dire que vous nous prenez un petit peu les uns après les autres, 93 le privé, 95 vous faites une tentative, vous échouez. Donc il faut prendre ça d'une manière frontale, faire les calculs des économies que ça fait, et peut-être qu'au lieu d'arriver à 62 ans, peut-être qu'on arrivera à 60 ans et demi ou 61. Mais il faut commencer par ça, parce que quand je discute avec des gens, eh bien, je me rends bien compte que tout le monde est écœuré par les différentes strates pour ces retraites. Et là, vous manquez sincèrement de courage.
Isabelle Debray.
Et là, il faut le faire. Il faut le faire pour que tout le monde soit à la même enseigne. Mais il est bien évident que...
Alors pourquoi faire ça sur 10 ans, Isabelle Debray ? Vous pouvez répondre à Olivier, là.
Vous savez très bien que réformer n'est pas une chose aisée, ce que je disais, dans notre pays. Mais là où je crois qu'Olivier a raison, excusez-moi de vous appeler Olivier, mais...
Je vous en prie.
En famille, je crois que vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, quand vous dites qu'on manque de courage, alors là, je m'insurge en faux contre ça, parce que je voudrais quand même dire que ce soit en 73, en 91, en 93, en 2003, en 2007, c'est toujours la droite qui a essayé... le mieux possible de réformer notre système de retraite. Jamais la gauche ne s'est attaquée à cette réforme aussi difficile. Et je voudrais quand même rendre hommage au gouvernement et au président de la République, parce que on aurait très bien pu encore attendre un an, deux ans, faire ça après 2012, par exemple. Or non, on s'y attaque immédiatement. Donc le courage, je crois que nous l'avons, le gouvernement et je crois aussi les parlementaires, nous devons aller vers un système équitable, juste, en faisant preuve, comme je vous le disais tout à l'heure, de pragmatisme. Et c'est peut-être là où il faut aller, effectivement, en progressivement et pas du jour au lendemain, de façon à ce que les gens qui ont fait des projets aussi de vie ne se trouvent pas tout d'un coup.
Ça sera la conclusion, Isabelle Debray. On remercie également Olivier. Isabelle Debray, vous êtes sénatrice UMP des Hauts-de-Seine et merci d'avoir participé à notre émission.
RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Elisabeth Martichoux, Jérôme Godefroy.